Pochette surprise sur RVR.
À l'heure où les lycéens révisent leur bac sur des applications, menacés par le stress et préoccupés par le trou de mémoire, moi, je feuillette avec délectation et un brin de nostalgie le sixième et dernier volume de cette collection de références qui a baigné mes années de lycée. Des volumes d'anthologie qui, avec leur sélection d'auteurs, présentaient un panorama de toute la littérature française. Et au gré des extraits choisis, je regarde aussi toutes ces illustrations, photos, ces reproductions de tableaux qui mettent si judicieusement en lien la littérature, l'histoire et les beaux-arts. Nous évoquons aujourd'hui dans Pochette Surprise les fameux Lagarde et Michard, ces manuels scolaires qui ont révolutionné l'approche pédagogique et préparé des générations d'élèves à l'étude de textes.
Papier, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer un peu d'amour papier velours. Et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche papier tu mouches et moitié fou, c'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie, où l'on en meurt papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer.
En revoyant aujourd'hui cet homme compact posé sur mon léger bureau, je n'imagine plus les heures passées autrefois à les compulser, les annoter, les potasser, à les maudire aussi un peu. Et dire que maintenant je les admire là dans ma bibliothèque et je les couve du regard et les conserve comme du bon vin. Certes, quand j'en ouvre un, je lui trouve un petit goût un peu amer, périmé, tout en reconnaissant que c'était d'excellents manuels pour l'époque, hein, des crus incontournables qui ravissaient nos professeurs souciés de grammaire châtiée et qui nous ont fourni à nous la base d'une culture française. Les riches heures du duc de Berry illustraient la couverture du Moyen-Âge. Un fragment de la tapisserie de la Dame à la licorne pour le XVIe siècle, un chef-d'œuvre du Caravage pour le volume consacré au XVIIe, un tableau de Watteau pour le XVIIIe, un dessin de Victor Hugo orné la couverture du 19e siècle et enfin une composition abstraite d'Estève pour le 20e siècle. Lagarde et Michard, deux noms propres qui sont quasiment devenus des noms communs pour bien des Français d'aujourd'hui qui se souviennent de leurs cours de seconde, de première et de terminale. Mais qui étaient André Lagarde et Laurent Michard, un duo redouté qui nous revenait chaque année en septembre sous la pluie? Ces recueils, les Lagarde et Michard, fabuleux panorama de toute la littérature française, ont été conçus par deux enseignants précurseurs. Ils ont été tirés à plus de 20 millions d'exemplaires, ces volumes admirés, peut-être détestés et contestés, mais en tout cas utilisés pendant plus de 40 ans par plusieurs générations d'élèves et de professeurs jusqu'au début des années 1990. C'est peu dire s'ils ont marqué l'enseignement du français au lycée. André Lagarde est né en 1912 en Haute-Garonne, à Touille. Agrégé de lettres, il a enseigné jusqu'en 1969 dans les prestigieux lycées parisiens à Buffon, puis à Louis-le-Grand, avant de devenir inspecteur général de l'instruction publique. Laurent Michard, lui, est né en 1915 à Saint-Étienne, où il a fait ses études secondaires. Sa mère était d'ailleurs prof de sciences à l'école normale de Saint-Étienne. Et lui fut professeur de lettres supérieures, notamment à Henri IV à Paris. Et il a également fini sa carrière en devenant inspecteur général, lui aussi, de l'instruction publique. Leurs manuels paraissent entre 1948 et 1962 chez une toute nouvelle maison d'édition, Bordas, et vont vite devenir des best-sellers de l'édition scolaire. Les deux hommes se rencontrent à Toulouse, où ils sont nommés tous les deux. Ils se lient d'une forte amitié car ils se rejoignent aussi sur cette idée, ce précepte pédagogique qu'ils mettent en place chacun dans son cours. L'étude du texte doit être la base de l'enseignement et doit s'accompagner d'un contexte d'histoire littéraire et pourquoi pas aussi d'illustrations, d'iconographies, de documents pour faire des passerelles entre les différents arts et le tout dans une mise en page tout à fait novatrice.
Dans des classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets. Tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classes de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirées qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne.
Lagarde et Michard, un couple mythique qui hante encore notre mémoire collective. On s'en souvient comme de Tintin et Milou, Mallet et Isaac, Simon et Garfunkel, Starsky et Hutch, Juliette et Roméo, Laurel et Hardy, Stone et Chardin, Bonnie and Clyde, Dolce et Gabbana, Bataille et Fontaine, Bernard et Bianca. Chacun choisira son duo préféré de cris et de chuchotements, de sang et de larmes, de bec et d'ongles, du fond et de la forme, du yin et du yang. Bref, tous ces binômes et formules proverbiales, imagées, expressives et quasi automatiques. À cette paire littéraire, aujourd'hui, à l'honneur dans votre pochette surprise, je dois une part de ma culture, bien entendu, mais aussi de longues minutes d'angoisse, quand notre professeur, Madame Arlot, annonçait de sa voix sèche: ouvrez votre Lagarde et Michard, page 271, et prenez une feuille, nous allons faire un contrôle.
Vous prenez le dictionnaire de rimes, vous l'ouvrez à la page des mots, vous n'y trouverez rien de sublime, excepté amour et puis toujours.
Je n'ai jamais su le dire, l'écrire, c'est pire.
Mais non, c'est même plus facile quand on est timide.
Je prends donc le dictionnaire de rimes et je tombe sur le mot amour.
Que l'on soit Dupont ou Lamartine, la seule rime qui va, c'est toujours.
Pas besoin de leçons de poésie pour être poète. Il faut
faut tremper sa plume dans son cœur pour être un auteur.
J'étais toujours en grammaire, derrière, dernière,
mais tout s'accorde sans problème du moment qu'on s'aime.
Il manque un verbe pour lier nos rimes.
Alors là, c'est simple comme bonjour, et ça donne un résultat sublime. Mon amour, je t'aimerai toujours.
Pas besoin de leçons de poésie pour être poète. Il faut tremper sa plume dans son cœur pour être un auteur. Pas besoin de leçons de poésie pour être poète. Il faut tremper sa plume dans son cœur pour être un auteur.
Vous écoutez Pochette Surprise sur RVR.
Pendant 19 ans, André Lagarde enseigne à Louis le Grand, où il termine sa carrière, dans la sidération. Lui, cet homme de notre siècle qui vit 1968 comme une agression, un écroulement. Car, effectivement, il est pris à partie et violemment bousculé pendant un de ses cours par des étudiants et manifestants d'extrême gauche adeptes de la révolution culturelle chinoise. Il est traité de fasciste, empoigné, brocardé lors de la surveillance d'un concours blanc des classes prépa. Des élèves refusant de subir cette épreuve sont venus perturber sa classe. Il en fait un malaise cardiaque. On le sort précipitamment du lycée sur une civière, il n'y reviendra plus. Il a 57 ans, il prend sa retraite de professeur et on le nomme inspecteur général de l'instruction publique. Laurent Michard, originaire du village d'Avézieux, entre Saint-Galmier et Saint-Étienne, professeur agrégé lui aussi, devient inspecteur en 1966 et chevalier de la Légion d'honneur. J'ai retrouvé, au hasard d'un blog, un témoignage d'un de leurs anciens élèves, devenu prof à son tour, et voilà ce qu'écrit Jean-Pierre Maillard, se souvenant d'André Lagarde. Il fut notre professeur de cagne à Louis le Grand et nous le chahutions allègrement en soutenant systématiquement les thèses inverses du Lagarde et Michard, allant même, par exemple, jusqu'à remplacer certaines illustrations du genre Botticelli par des extraits de Playboy. Aux alentours de mai 68, il fut nommé inspecteur général et le hasard voulut qu'une de ses premières visites fût en octobre 1970 pour le tout jeune professeur que j'étais en province depuis quelques semaines. Je passe sur le contenu et l'impact de cette inspection déterminante pour en arriver à l'entretien qui suit toujours la leçon. M'avait-il reconnu ? Oui. Nous allons évoquer quelques souvenirs. De Chahut ? Pas du tout. Mais le nouvel inspecteur était tellement en verve avec le nouvel enseignant que la conversation devint étonnamment personnelle. Je me permis même, à un moment, de lui demander s'il avait gagné beaucoup d'argent avec son manuel. « Oui, » me répondit-il, « mais vous ne devinerez jamais comment. » Et de me confier qu'en plus de ses droits d'auteur, il avait fait la culbute en ayant acheté puis revendu, après l'avoir mis dans le manuel comme illustration, un tableau dont il me nomma l'auteur, celui-ci m'était inconnu, et j'étais sans doute quand même quelque peu intimidé, de sorte que je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. Peut-être était-ce la reproduction figurant à l'époque en couverture de l'ouvrage « Le pont Saint-Michel » d'Albert Marquet. En tout cas, il est de ce jour sacrément remonté dans mon estime, et je n'ai pu depuis me séparer de mon Lagarde et Michard. En tout cas, même en cagne, cela pouvait servir. J'ai un condisciple de la cagne 2 qui raconte qu'il a été admis à la grande école Ulm en ne lisant en littérature que le Lagarde et Michard. Sacré Lagarde!
Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre, ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Robinson ou Gulliver ou Cosette et Javert. Au fin fond de la Mancha, retrouver Sancho Panza dans la ville de Padova, le libertin Casanova, savourer Frédéric Dard, le breton Alphonse Boudard, ou les aventures friponnes de Restif de la Bretonne. Rendez visite à Podane, à Gil Blas de Santillane, devenez les commensaux de Voltaire et de Rousseau. Et si vous trouvez amers les raisins de la colère, allez faire des cabrioles au pays de Lewis Carroll. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Albert Cohen ou Balzac, Machiavel ou Pierre Dac. Délectez-vous en passant d'un joli conte persan, ou savourez quelques vers de Verlaine ou de Prévert. Une pensée de la Haute-Ceu, apitoyez-vous sur ce pauvre César Birotteau qui a croqué tout son gâteau bien au chaud dans votre dodo. Emportez Georges Amado ou ce Julio Cortazar qui a des histoires si bizarres. Il sera minuit sonné, vous aurez toujours le nez dans un roman de Sandra ou le journal de Jules Renard. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Scheherazade ou Lucrèce au jardin des caresses. Après Dumas et Kessel, découvrez Raymond Roussel, amenez le divin marquis chez Madame de Bovary. Vous resterez étourdi du voyage au bout de la nuit. Rabolio vous séduira comme Zazie ou Jacques Vintras. Aimez-vous les esprits forts, dévorez messieurs Chamfort, La Rochefoucauld, Shakespeare, n'ont laissé que de bons souvenirs pour de multiples raisons. Si un jour je vais en prison, je veux bien me passer de croissant, mais ne me laissez jamais sans. Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre, ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre tous ceux qui ont le chou farci, à qui je dis merci.
Outils de mise en œuvre des programmes, trait d'union entre l'éducation nationale, les professeurs et les élèves, sans oublier les parents. Les manuels scolaires sont le fruit d'un travail complet pour élaborer une vraie culture scolaire. Encyclopédique, didactique, rigide, orienté, pourrait-on dire aussi, tant il est vrai qu'ils ont véhiculé depuis le 19e siècle de nombreux stéréotypes. Mais ils ont eu au moins le mérite de transmettre quelques savoirs. Nous évoquons les Lagarde et Michard aujourd'hui dans Pochette Surprise, symbole d'un enseignement secondaire fondé sur l'encyclopédisme, aujourd'hui sujet à critique, de par le choix de certains auteurs et de certains commentaires. Mais il n'en reste pas moins une référence et un souvenir poignant pour plusieurs générations de lycéens. Un souvenir, à présent, de leur jeune éditeur Pierre Bordas, qui connaît la notoriété dans ses années 50, justement grâce au succès du Lagarde et Michard. Écoutons-le. Dès 1948, nous avons édité le Moyen-Âge, puis en 1949, le XVIe siècle, avec un succès mitigé de 5 à 6 000 exemplaires par an. Le succès ne se dessina qu'à la parution du XVIIe siècle en 1951. Après-guerre, les programmes littéraires étaient restés à peu près identiques. Depuis des dizaines d'années, on étudiait le Moyen-Âge en classe de 3e, le 16e et 17e en seconde, le 18e et 19e en première. Le 20e n'était pas vraiment au programme. En 1960, les lycéens, bien souvent, ignoraient les noms de Sartre, Camus, Giono, Monterland, Giraudoux, etc. Les études littéraires, les humanités, comme on les désignait, ne dépassaient guère les symbolistes et quelques parnassiens. On passait beaucoup de temps sur les parnassiens, Heredia, Sully Prudhomme, premier prix Nobel de littérature. Verlaine Rimbaud était à peine évoqué. Lautréamont, oublié. En revanche, Voltaire, Rousseau, Chateaubriand, Lamartine et autres étaient étudiés en détail, mais cependant, moins que Racine, Corneille ou Molière, dont tous les élèves devaient apprendre par cœur des dizaines de vers.
Écoute
était la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée. Pourtant comme elle est encore fière, et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire.
Le mérite du Lagardy-Michard fut de redonner vie à ces fantômes en les replaçant dans le contexte de leur propre existence, en citant les œuvres les plus significatives dans de larges extraits bien amenés et commentés en regard de l'exposé littéraire ou aux événements de leur vie. Dès l'année 1951, lors de la parution du XVIIe siècle, nous fûmes stupéfaits de recevoir des témoignages d'admiration de lecteurs de France et plus tard du monde entier. Les Lagardes, comme on les appelait, constituèrent un succès sans précédent. Les parents même s'y intéressaient et reprenaient à leurs enfants, en fin de scolarité, les ouvrages pour qu'ils n'aillent pas les brader. Pierre Bordas continue. André Lagarde et Laurent Michard nous étaient apparus rue Mouton-Duvernay dans les années 46-47. Lagarde assez ramassé, presque costaud, souriant, aimable, conciliant, souvent de votre avis, mais apportant aussi des réserves qu'il finissait par imposer. Laurent Michard, lui, grand, long, beau visage, le front haut et un sourire éternel sur les lèvres, jamais une dispute, jamais un mot plus haut que l'autre, leurs textes manuscrits, écrits à la main, calligraphiés sans aucune faute ni rature, étaient calibrés à la ligne près. Ces deux hommes constituaient une équipe soudée par une volonté de qualité, de style, d'information sans défaut. Notre première réunion dura des heures. Chacun, à tour de rôle, exposa son projet. Henri, mon collaborateur et moi, nous nous regardions par moments avec inquiétude. Comment pourrions-nous nous lancer dans une telle aventure éditoriale, nous battre contre des puissances telles que Hachette ou Nathan, et conquérir un marché que nous connaissions à peine, fondé sur des choix de professeurs, parfois conservateurs dans leur enseignement, et souvent prudents, dès que l'on abordait les notions de sensibilité, d'humanité, de poésie, de fantaisie et d'humour. La démarche de l'équipe Lagarde et Michard, qui était insensée, exigeait un investissement financier important que, malgré nos succès récents, nous étions loin de pouvoir assurer. Elle supposait un changement total des mentalités et une véritable conquête, entreprise sans grands moyens et au plus mauvais moment. Nous n'eûmes cependant guère d'hésitation, Henri et moi, au moment de nous lancer dans cette aventure. Des reproductions de tableaux furent introduites, de Poussin à Picasso, des photographies de jeunes acteurs, hein, théâtre et cinéma, apparurent, Gérard Philippe dans le rôle du Cid ou dans le personnage de Fabrice Del Dongo, le symbole même de la jeunesse, du courage et de l'espoir, capable de rallier les jeunes à des héros jusqu'alors désincarnés. D'une manière générale, les illustrations étaient destinées à rendre aux œuvres classiques le caractère d'éternité qui leur est reconnu. Les tirages des Lagardy Michard deviennent énormes à partir des années 1955-56. Afin de payer les auteurs régulièrement, Bordas, leur éditeur, propose de les mensualiser, ce qu'ils acceptèrent de bonne grâce. Ça ne se faisait pas à l'époque. Au début des années 60, la quasi-totalité des lycées, de la 6e à la 1ère, passe sous l'empire de nos deux héros. À partir de 1968, ils sont contestés par une partie du corps enseignant qu'on appelait alors les barbus, lesquels tenaient à intégrer l'étude du marxisme-léninisme dans la vie littéraire. Freud aussi avait ses partisans. Comment était-il possible de faire tant de place à Balzac et Hugo et de négliger Zola ? Rousseau et même Voltaire étaient édulcorés, cités avec une certaine partialité. La place réservée à Diderot aussi était jugée insuffisante. Ces attaques étaient sournoisement entretenues par certains médias qui jugeaient la collection scolaire et dirigiste. Une certaine Isabelle Adjani, alors toute jeune comédienne à la Comédie-Française, lors d'une interview à la télévision, fait le geste de balancer toute la collection à travers l'écran. Les Lagardy Michard avaient certes quelques imperfections, une certaine mise à jour était sans doute nécessaire, mais ils avaient surtout le tort de ne pas être dans le coup, dans le vent de l'histoire.
Pochette surprise sur RVR.
Qui n'a pas en mémoire au moins un de ses anciens manuels scolaires ? Livres de lecture, de calcul, d'histoire géo, de leçons de choses. Au fil des années, ces ouvrages ont véhiculé, outre un savoir, une connaissance, la pensée d'une époque, des valeurs et une certaine image de la France et de ceux et celles qui l'ont construite. Avec des représentations particulières, des choix signifiants, des enjeux. On a tous en tête un tableau noir, des pupitres en bois, des cartes, des cahiers, des odeurs et des livres de classe. Nous évoquons aujourd'hui les célèbres Lagarde et Michard. On les recouvrait de papier plastique transparent le lendemain même de la rentrée. Et maintenant, les traces de scotch encollent la page de titre et apparaissent bien marquées sur la table des matières. Aujourd'hui, je peux lire encore inscrit au crayon à papier le prix du volume du 19e siècle que je feuillette, 35 francs 30 centimes. Et quelques passages soulignés. Je relis avec un brin de nostalgie quelques questions subsidiaires. Montrer comment Nerval nous communique un sentiment obsédant de tristesse. Par quels arguments Baudelaire repousse-t-il la tentation des plaisirs ? Souligner le caractère dramatique que Hugo donne à ce débat de conscience. Et nous souhaitons bon courage à tous ceux qui passent le bac.
Ils m'ont dit passe ton bac d'abord. Ils me l'ont dit très fort. J'avais envie de faire de la musique avec mes copains, on se marrait. Ils m'ont prévenu si tu le rates. Ils m'ont dit passe ton bac encore. Ils me l'ont dit plus fort. J'étais carrément démotivé, tous mes copains s'étaient barrés. Ils m'ont prévenu si tu le loupes.
Loupé.
Ils m'ont dit passe ton bac ou dehors. Ils me l'ont dit tellement fort. J'ai bossé comme un gros taré, le jour venu j'ai paniqué. Ils m'ont prévenu si tu le foires.
Bah foiré.
Ils m'ont dit passe ton bac ou t'es mort. Ils me l'ont dit trop fort. Ça m'a pété les deux tympans, j'entendais rien encore tout le temps. Ils m'ont prévenu si tu te trompes.
Je me suis trompé.
Passe ton bac, ton baccalauréat. Passe ton bac, ton bac, ton baccalauréat. Pour ta maman et ton papa, passe ton baccalauréat. Aujourd'hui j'ai 30 ans de plus, le bac ça n'existe plus et mes parents non plus n'existent plus. C'était un jour de résultat comme d'habitude, je l'avais pas, je sais pas pourquoi je l'avais pas, mais c'est comme ça je l'avais pas. Ils ont pété un boulon, gueulé comme des sauvages, sauté du balcon, on habitait au 7ème étage, je les ai retrouvés éclatés sur le bitume, mort dégueulasse. Je résume, le fait est que j'ai tout fait pour oublier cette histoire. J'ai jamais eu mon bac, c'était un vrai cauchemar. Mais le problème aujourd'hui, c'est avec mon fils aîné. Ça fait 10 ans qu'il essaye d'avoir son BEPC. Je lui dis passe ton BEPC, passe ton BEPC, ton BEPC, allez, passe ton BEPC, ton BEPC, ton BEPC. Ton pas m'aimé et ton bébé qui ont sauté, passe ton BEPC.
Il entre dans la classe, précédé de sa réputation. Son nom circule depuis longtemps dans les cartables, imprimé des milliers de fois dans les manuels scolaires. On le lit sans le connaître, sans mettre de visage sur ce nom, et voilà qu'il franchit notre porte. Lagarde, celui qui, avec Michard, a mis de l'ordre dans la littérature française. C'est bien lui, celui qui a tout lu, qui sait tout. Eh oui, c'est bien lui dans son costume sombre, le regard droit, une présence calme mais imposante. Ce qu'on appelle une autorité, une prestance. Il écoute les uns et les autres et il semble comprendre tout. Il s'assoit au fond de la classe, comme toujours les inspecteurs. Mais aujourd'hui, en ce 25 mars 1972, rien n'est tout à fait comme avant. Les élèves ne baissent pas tous les yeux. Ils ne sont pas tous impressionnés. Certains parlent sans attendre, d'autres chuchotent. On discute avec le prof, on coupe parfois la parole. Le célèbre monsieur Lagarde ne dit rien. Il observe, et dans son regard, il n'y a ni approbation, ni irritation. Dire qu'il n'est jamais quasiment sorti de la classe depuis le lycée de garçons de Toulouse et ensuite son agrégation de lettres obtenue en 1938. Notre prof parle de Victor Hugo. La misère, la justice sociale, l'engagement, le rôle de l'écrivain dans la société. Nous, on parle de ce qu'on vient de vivre, il n'y a pas si longtemps, dans la rue, en mai 68, on parle de nous, de notre présent, de notre avenir. Le texte littéraire n'est plus seulement un texte, une œuvre d'art, c'est un miroir, et surtout, un champ de bataille, c'est-à-dire un terrain de débat. Alors, l'inspecteur parle. Que vous dit ce texte à vous aujourd'hui ? Il parle encore de nous, en fait, plus de 100 ans après. Lagarde et Michard avaient bien compris depuis longtemps. Depuis longtemps, ils avaient compris qu'il faut garder une certaine exigence, tout en ne fermant pas la porte à ceux qui voulaient entrer maintenant. Les textes sont les mêmes depuis toujours, mais les lecteurs ont changé, voilà tout. Et entre les deux, il y a désormais un espace nouveau.
Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
On avait appris à le sortir du cartable en cours de français comme un objet important. Il ne fallait pas l'oublier, même si parfois on pouvait travailler avec un pour deux. En tout cas, on le trouvait toujours trop épais, toujours austère, malgré ses illustrations, dont certaines en couleur. La gare des Michards, la littérature avec un grand L, des introductions écrites en petites lettres et toujours trop longues, des notices, des mots compliqués, des questions auxquelles il fallait répondre. On ne saisissait pas toujours tout clairement, on ne retenait pas tout. Et puis un jour, le déclic arrivait. Et un jour arriva où nous distinguions parfaitement les mouvements de pensée, les écoles de chacun. Un jour, grâce à eux, nous fûmes fiers de faire partie des littéraires, car nous avions, nous aussi, trouvé notre place, nos repères. Aujourd'hui, on lui reproche beaucoup de choses à ce monstre bicéphale, Lagarde et Michard, trop fermé, trop rigide, trop classique, peut-être. Mais c'était une belle porte, un peu lourde à pousser, mais une porte quand même, que je vous invite à rouvrir aujourd'hui. Leur règne absolu sur la littérature enseignée à l'école a duré plus de 40 ans. Le Lagarde et Michard, une institution dans l'institution. Il a dicté ce qu'il fallait lire, comprendre, admirer. Un pouvoir discret, mais immense. Un pouvoir de papier. Et il suffit aujourd'hui de prononcer leur nom pour que quelque chose revienne en nous. Une mémoire un peu floue, des heures passées à réfléchir, à écrire, à raturer, à potasser. Une forme de nostalgie, même chez ceux qui le contestent aujourd'hui. Et je ne peux m'empêcher de penser à ces deux hommes, ces deux professeurs qui s'étaient rencontrés juste avant la guerre de 39, qui avaient voulu transformer leur monde et qui l'avaient vu peu à peu se fissurer. Laurent Michard est mort en 1984. Il n'aura pas eu le temps de profiter longtemps de sa merveilleuse demeure qu'il s'était faite construire dans le Massif des Morts. André Lagarde, lui, est mort en 2001, à 89 ans. Il aura eu le temps de voir ses manuels remplacés, ses certitudes remises en cause, ce qui ne l'empêcha pas du tout de préparer une mise à jour de ses manuels pour CD-ROM à l'époque. Mais peut-être que tous les deux n'avaient quand même pas saisi une chose, une seule, celle que les textes restent libres, plus libres que les manuels, dans lesquels ils sont classés et bien plus libres que leurs explications.
Sa tête
Pochette surprise sur RVR. Eh bien, c'est terminé. Nous nous quittons aujourd'hui avec Alain Leprest, un poète de la chanson française qui rend hommage à un autre poète, Rimbaud. Alors Alain Leprest, comme de grands auteurs, de grands poètes de la chanson, Brel, Ferré, Brassens, Nougaro et j'en passe, a été oublié par Lagarde et Michard, a été ignoré. On ne leur en veut pas. Autre temps, autre mœurs, au tempora, au mores, aurait-il préféré que je dise. Bonne semaine à toutes et à tous.
Pourquoi t'as si tôt couché les glaïeuls? Ça t'aurait fait beau des rides sur la gueule. Pas beau. Tu nous aurais fait un bat de vieillard, perdant des tifs blancs dessus ton costard, corbeau. Moi qui faisais tenir tes œuvres complètes sur les étagères de ma boîte d'allumettes, sans fable. Si t'étais mort au troquet de la centaine, faudrait un camion pour louer tes poèmes au diable. Tu nous aurais fait une chouette tête de mort si t'avais blanchi comme le père Victor, gamin. T'aurais cultivé l'art d'être père grand si t'avais pris le temps à brin de traîner en chemin. Sous la tour Eiffel avec les dadas, t'aurais causé jazz, roman, cinéma, octobre. J'aurais découvert la psychanalyse, culbuté ta mère branchée dans les frises. Ton zob, Rimbaud, Rimbaud. T'aurais surcogné l'Amérique en surf, puis fait des poèmes au poil du 1916. Les petits hommes verts t'auraient peut-être admis portier de service à l'Académie française. Ta canne à ton bras longeant la coupole, tu serais venu fleurir la tombe à ton pôle d'une rose. La croix du mérite et celle du maintien serais-tu mort idiot, mon pote, on est bien. Bonne chose. D'Éthiopie sur le pavillon, dis donc t'en aurais une chouette collection de timbres. Une pipe d'opium entre tes caries, un chien borgne au bord de tes chaussons gris, vieux rab. T'aurais vu le Guillaume sur le pont Mirabeau, vous auriez poussé chez l'ami Pablo ensemble. Avec tes vieux poings dans tes poches crevées, si la gangrène avait pris le temps de bouffer l'autre jambe. Rimbaud, Rimbaud. Y'en a qui diront que ça fait plus coquet quand on a tout dit de partir avant les ratures. Comme dehors, on reste sur la terre, qu'après tout, on a que l'âge de ses artères. Arthur, t'avoueras quand même que c'est pas des manières de partir en laissant la moitié d'un verre d'absinthe, et puis d'enfanter une génération en laissant la mère sans rien, sans pognon, enceinte.